Bonsoir à vous tous, bienvenue sur VOA Afrique, Eric Manilakiza avec vous. Vous suivez Sporama. Et ce soir, nous allons nous focaliser sur les Jeux Olympiques de Paris, clôturés dimanche 11 août 2024. Je serai avec vous, avec Amine Birouk qui se trouve au Maroc. Amine, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Eric, bonsoir les amis.
Amédine Sy, bonsoir.
Bonsoir Eric et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Élisée Onkpatine est également avec nous. Bonsoir Élisée.
Oui, bonsoir Eric et bonsoir à tous les amis sportifs de la VOA Afrique.
Merci à vous tous d'être là. Nous aurons également Jules Valentin Ngwe. Alors, deux semaines après une cérémonie d'ouverture audacieuse et controversée sur la scène, la clôture des Jeux Olympiques a pris un temps plus traditionnel. Paris a transmis le flambeau à Los Angeles, futur hôte des Jeux Olympiques de 2028. Le Stade de France a été le théâtre d'un grand spectacle réunissant les nations du monde entier, célébrant un moment d'unité mondiale. L'Afrique a remporté 39 médailles, inscrivant son nom dans l'histoire. Alors, Amine, on va d'abord commencer par l'aspect cérémonie, organisation. La cérémonie d'ouverture sur la scène a été audacieuse, mais controversée. Selon vous, quelle est l'importance de ce type de cérémonie dans la perception des Jeux par le grand public ?
C'est le glamour, c'est annoncer le ton de cette édition des Jeux Olympiques. On a eu le jeu de son et lumière magnifique de Pékin 2008. On a eu le ton très décalé de Londres 2012. À Paris, on a essayé de voir les choses en grand en faisant une cérémonie grandeur nature sur le bord de la Seine. On est sorti des carcans traditionnels et du stade qui devait englober la cérémonie d'ouverture pour proposer quelque chose de plus original, de plus décalé, mais également de plus clivant. Et on a eu beaucoup de controverses concernant cette cérémonie d'ouverture. J'aimerais pas revenir par rapport à certaines scènes qui ont choqué et par rapport aux excuses qui ont été présentées par la suite. Je suppose que les Jeux Olympiques sont censés réunir, sont censés faire abstraction de toute contingence raciale ou religieuse. Il aurait fallu peut-être une cérémonie plus concerté, plus convivial, où le dénominateur commun de l'universalisme des trois religions monothéistes, des autres religions révélées ou non, soit là, histoire de ne pas trop choquer, alors que ça a été le cas. Donc la cérémonie de clôture, elle, a été dans le parfait reflet de ce qu'on attendait d'une cérémonie de clôture, spectaculaire. J'adore d'ailleurs les cérémonies de clôture parce que les délégations sont mélangées, alors que le temps d'une cérémonie d'ouverture est souvent plus martial avec les délégations qui défilent ou qui ont arpenté le bord de la Seine dans un ordre alphabétique bien défini. Donc cette cérémonie d'ouverture était un contraste de ce que la France voulait proposer de manière très clivante, et la cérémonie de clôture a été un peu plus concertée, un peu plus conciliante par rapport à ce que le monde attendait de la France avant de transmettre le témoin à Los Angeles en 2028.
Élisée ?
Oui, Eric, il faut le dire, personne n'aime le dernier jour des vacances. Hein. Tout le monde n'aimait pas aussi le dernier jour de classe, et donc il est impossible de se préparer à aimer l'idée que se lève le dernier jour des Jeux Olympiques. Nous avons vécu deux semaines hors du temps, mais au cœur du bonheur et à la fois parce que nous avons adoré tout ce qui s'est passé. C'était une lutte implacable, voilà, j'y arrive. Amine l'a déjà dit, je ne reviendrai plus sur la cérémonie d'ouverture ni la cérémonie de clôture, mais nous avons vécu deux semaines de compétition intense où le suspense est resté entier. C'est vrai que certains ont confirmé leur statut, mais d'autres sont passés à côté. C'était quand même exceptionnel ce que nous avons vu du côté de Paris. Place à Los Angeles et on aimerait voir cette si belle ville de Los Angeles réaliser autant ce que nous avons vu du côté de Paris.
Oui, nous allons revenir tout à l'heure sur les différentes performances réalisées. Amédine Sy, le choix de Tom Cruise pour la passation du flambeau à Los Angeles a marqué les esprits. Qu'est-ce que cela révèle sur la stratégie de communication des organisateurs des JO d'Atlanta?
comme vous le savez...
Les Jeux de Los Angeles, plutôt, oui.
Comme vous le savez, Eric, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le premier événement mondial en matière de sport. Donc, quand on parle d'Olympisme, on parle d'exemple, on parle de performance. C'est pourquoi, à chaque fois qu'il y a des Jeux, le flambeau, il faut le donner à quelqu'un qui le mérite. Et je pense que Tom Cruise le mérite. Et sur le plan médiatique, ça peut apporter beaucoup de choses. C'est pourquoi ils ont fait le choix sur lui. Maintenant, Eric, il faut dire que la France a placé la barre très haute. La barre est très haute en ce moment. C'est autour des Américains, des citoyens de Los Angeles, notamment de relever le défi. Puisque moi, j'ai eu la chance de couvrir les Jeux de Pékin. Mais ce que j'ai vu en France n'a rien à voir avec ce que j'avais vu en 2008. Donc la barre est placée très haute. J'espère que les Américains vont relever quand même le défi, car ces Jeux de Paris ont été tout simplement phénoménal, Eric. Mmh.
Amine, Tom Cruise, qui a fait une entrée sensationnelle en descendant un rappel depuis le toit du Stade de France, et c'était impressionnant.
Oui, impressionnant. C'est dans la saga La Mission Impossible. Maintenant, c'est un gros point d'interrogation par rapport à Los Angeles. Les scènes ont été spectaculaires, les cascades aussi. Tout a été étudié, préparé au détail près. Je ne pense pas qu'on ait été surpris de sa présence parce que ça a été bruité il y a quelques jours et donc on savait pertinemment qu'il serait parti ou qu'il ferait partie de cette cérémonie de clôture. Ensuite, l'effet de surprise, c'est peut-être le voir arriver de cette façon-là, si spectaculaire, et s'envoler vers Los Angeles. Mais je pense qu'il y a un clin d'œil par rapport au cinéma, par rapport à la série des années 70, qui a été diffusée dans de très nombreuses chaînes américaines nationales ou câblées. Ce qui est important dans tout ça, c'est que au-delà de l'aspect festif, au-delà de l'aspect spectaculaire par lequel la France a voulu impressionner le monde et recevoir le monde, il y avait à côté ce qui nous intéressait tous, notamment nous, Africains, les performances sportives.
Nous parlons donc des JO de Paris 2024. Sur le plan des performances, l'Afrique brille à ces Jeux avec une hausse des médailles d'or. Le Kenya progresse, l'Algérie se distingue, l'Afrique du Sud devance l'Éthiopie, tandis que de nouveaux succès émergent dans des sports d'hiver. Nous avons posé cette question à Tarsis Harelimana, journaliste olympique indépendant basé à Ottawa, au Canada. Suivez ce qu'il dit.
On a 13 médailles d'or par rapport à 11 récoltées donc à Tokyo. Et le Kenya progresse. Eh bien, on part de la 19e place à la 17e place pour le Kenya. On voit aussi qu'il y a une progression et surtout un réveil des Sud-Africains qui occupent la 3e place. Ensuite, un pays comme l'Algérie progresse. Il est en 2e position au niveau du classement africain. Donc l'Afrique progresse.
Que peut-on retenir d'autre sur...
L'Afrique perd un tout petit peu dans les courses de fond et de demi-fond, et ça s'explique parce qu'en fait l'Europe, l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, eh bien, on ménage des athlètes d'origine africaine, et c'est normal que ces plateaux, ou plutôt ces podiums, soient occupés aussi par les autres. Mais on sent aussi une bonne progression de l'Afrique, notamment avec l'Afrique australe, la montée du Botswana qui perturbe l'ordre finalement, le temple du sprint américain, avec une équipe aussi de la Zambie qui progresse. Il y a une sorte de progression, une course de progression au niveau des courses de sprint et puis la découverte aussi d'autres sports. Quand on voit que l'Algérie, par l'intermédiaire d'une gymnaste, décroche l'or, quand on voit aussi que dans des domaines aussi compliqués comme le patinage moderne, l'Égypte obtient l'or, ça c'est quand même une bonne chose pour l'Afrique.
Tarsis Harelimana, journaliste olympique indépendant basé à Ottawa, au Canada. Élisée, l'Afrique a donc remporté 39 médailles avec de nouveaux succès dans des sports d'hiver. Tarsis vient de le dire. Qu'est-ce que cela signifie pour le développement du sport sur le continent?
Bien évidemment, cela signifie que, à force de travailler, nous pouvons y arriver, puisque aujourd'hui, c'est vrai que on n'entend pas souvent quand les autres continents remportent les trophées ou les médailles, on ne dit pas l'Europe a totalisé tel nombre de médailles, l'Amérique aussi, ni l'Asie. Mais en Afrique, on a tendance à tout regrouper ensemble, et c'est pour dire que ensemble, nous pouvons aller si loin. Tiens, Eric, des 39 médailles raflées par les pays africains, 24 viennent de l'athlétisme. Vous imaginez, ça montre clairement qu'on peut marquer de notre empreinte dans cette discipline. Et vous imaginez la reine du demi-fond, Béatrice Chebet, qui a remporté le 5000 et le 10000 mètres, fait Kipyegon sur le 1500. D'ailleurs, elle vient de remporter trois fois d'affilée cette distance-là. Vous imaginez aussi que Emmanuel Wanoni, de sa 21 ans, est déjà sacré champion olympique sur le 800 mètres. Et aussi, quand on prend un autre athlète, notamment le Marocain Soufiane El Bakkali, qui n'a pas fait les choses à demi-mot. C'est pour dire que quand il y a les grands événements, eh bien, on le voit souvent. Donc, il a remporté les 3000 mètres steeples. Ça veut dire, aujourd'hui, on a montré que même dans les courses de demi-fond, on peut aussi aller titiller les grandes nations, les grands pays de l'athlétisme. Nous avons vu le Botswana avec Tesile Tebogo qui est arrivé en deuxième position, à quelques centièmes près, après que les États-Unis ont remporté cette série-là. Donc aujourd'hui, c'est Akane Simine aussi est passé très proche de finir troisième sur la distance des 100 mètres. Donc en travaillant, tout est possible. L'Afrique aussi peut marquer de son empreinte durant les prochaines Jeux Olympiques. On en fait mieux. C'est vrai que il y a de cela 7 ans, on s'est bien illustré du côté du Brésil, à Tokyo, au Japon aussi, on a fait forte sensation. On a encore amélioré notre performance. Pourquoi pas ne pas commencer par bien travailler et d'ici 4 ans du côté de la Californie, du sud de la Californie, précisément à Los Angeles, la ville cinématographique, pourquoi pas ne pas créer notre propre cinéma, ne pas créer notre propre série ou ne pas créer notre propre film pour montrer que l'Afrique peut aussi chambouler le classement des médailles. Pourquoi ne pas terminer parmi les trois premiers quand il s'agit du nombre de médailles.
Merci Élisée. Amine, vous avez donc suivi Élisée qui a parlé des exploits légendaires de certains athlètes africains. Il faut souligner qu'il y avait près de 1000 athlètes africains dans ces JO de Paris. Alors, la performance de l'Algérienne Kélia Nemour en gymnastique est historique, Amine. Quels sont les impacts potentiels de cette victoire pour la gymnastique en Afrique?
Tout d'abord, déjà, ouvrir une voie, parce que c'est une pionnière. C'est la première médaille de l'Afrique dans une discipline où on était quasiment banni. Il faut aussi parler du facteur chance, parce que Kélia Nemour est une gymnaste qui a fait partie des équipes de France jusqu'à un certain âge et qui a été interdite de compétition par le DTN français après une grave blessure et qui a su se réinventer en retrouvant son pays d'origine. Ce n'est pas, je dirais, le fruit du travail de la Fédération algérienne de gymnastique, loin de là. Alors que, par exemple, la médaille de Iman Khalif, avec toute la controverse qu'elle a accompagnée, c'est un travail qui a été fait par la Fédération algérienne de boxe. Je voudrais aussi parler d'horizon, parce que l'Afrique, pendant très longtemps, a été cantonnée à des médailles en athlétisme et en boxe. Et aujourd'hui, on voit que nous nous ouvrons d'autres horizons vers d'autres disciplines que nous ne maîtrisions pas et que nous sommes en train de dompter. Depuis quelques éditions, il y a l'escrime, il y avait la tunisienne Boubekri, ça a continué avec la tradition tunisienne et égyptienne. Il y a maintenant le pentathlon moderne, imaginez, c'est 5 disciplines. Donc 5 entraîneurs potentiels. Il faut aussi parler de la natation qui reste aujourd'hui un élément que l'Afrique peut bonifier dans les prochaines éditions. Il y a l'Afrique du Sud qui a gagné une médaille d'or dans cette discipline. Et puis, il y a le retour du ballon rond qui n'a plus été à part effet depuis Sydney 2000 avec le triomphe du Cameroun face à l'Espagne lors de l'édition qui a été organisée en Australie. Donc voilà, l'Afrique a quelques ouvertures avec la gymnastique, notamment Kélia Nemour. Elle a gardé ses bastions traditionnels comme l'athlétisme et la boxe. Et elle est en train de s'ouvrir d'autres horizons vers d'autres sports que nous ne maîtrisions pas et qu'avec un peu de travail, de persévérance, de rigueur, nous sommes capables également de rivaliser avec les autres continents sur ces disciplines que nous ne connaissions pas et qui ne font pas partie du lot traditionnel des sports prisés en Afrique.
À Médine, le Sénégal était représenté dans ces JO de Paris, aucune médaille remportée. Qu'est-ce qui aurait manqué aux athlètes sénégalais?
Oui, Eric, vous avez parfaitement raison. Le Sénégal a été représenté par 11 athlètes. D'abord, il faut dire que c'était une bonne performance par rapport à ce qui s'était passé à Tokyo. À Tokyo, il n'y avait pas d'athlètes sénégalais qualifiés sur les pelouses ou les tarafets. On a eu des invités, c'était 5 invités. Cette année, c'est 11 athlètes, donc c'était un peu mieux par rapport à Tokyo. Et pour ces Jeux de Paris, les 11 athlètes sénégalais ont fait mieux encore puisque Yves Bourris a été en finale, il faut le dire, en finale en slalom. Il s'est qualifié, c'est vrai, 12e lors de cette finale, mais c'était une première puisque depuis 2008, avec un certain Niskaba qui s'était qualifié en finale en athlétisme, le Sénégal n'avait pas réussi à qualifier quand même un athlète en finale. D'abord, c'est un mieux par rapport à ce qui se faisait. Mais pour répondre directement à ta question, que s'est-il passé? Pourquoi le Sénégal ne parvient toujours pas à gagner sa deuxième médaille olympique, puisque une seule médaille a été gagnée par le Sénégal, c'était en 1988 par un certain Amadou Diaba. Donc le Sénégal court toujours derrière cette deuxième médaille. Il faut le dire, c'est un problème d'organisation, puisque comme en Afrique, surtout au Sénégal, on ne gère que des événements, on attend la dernière minute pour pouvoir préparer les athlètes, et cela ne peut pas marcher au niveau des Jeux olympiques, puisque la préparation olympique nécessite 4, 5, 6, 10 ans de préparation pour pouvoir décrocher une médaille olympique, mais on ne le fait pas au Sénégal, puisqu'on avait eu un Mendy, il est champion d'Afrique en athlétisme, il représente le Sénégal, mais Mendy a commencé sa préparation quand est-ce? Depuis moins de 3 mois. Avec ça, on ne pourra jamais gagner une deuxième médaille olympique parce qu'on ne fait que gérer des événements, alors que les Jeux olympiques, c'est une longue préparation, Eric.
Amédine,
oui.
La sieste existe chez vous au Sénégal?
La sieste. Oui, mais cette sieste est trop longue. Hein.
Oui, peut-être qu'il faudrait qu'on inscrive la sieste dans les disciplines des JO de Los Angeles, comme ça vous seriez imbattable.
Oui, peut-être ça.
Et décrocher une médaille d'or.
Oui, peut-être ça, Eric. Il faudrait ça pour pouvoir quand même. Peut-être que si la lutte traditionnelle existait au niveau des Jeux, là, on pourrait espérer une médaille pour le Sénégal.
Il faudra plaider pour ça, en tout cas pour qu'on inscrive ça dans les disciplines, parce qu'à Paris, il y a eu 4 nouvelles disciplines adoptées. Jules est avec nous. Jules, bonsoir. Oh, il n'est pas encore là, mais nous espérons l'avoir avant la fin de cette émission. Amine, le Maroc était représenté, valablement représenté. Vous avez décroché une médaille d'argent, de bronze, en football tournoi masculin, n'est-ce pas?
Une médaille d'or, surtout sur le 3000 mètres steeple, avec Soufiane Barkhali qui a su conserver son titre olympique. C'est le premier athlète à avoir conservé son titre olympique sur cette distance, le 3000 mètres steeple, qui est très spécial depuis 1936. Et après, bien sûr, il y a l'exploit de l'équipe du Maroc de football qui a réussi à monter sur la troisième marche du podium après un tournoi spectaculaire, 17 buts marqués, meilleure attaque, 5 buts concédés, meilleure défense, Sofia Rahimi, meilleur buteur, 8 buts, et un jeu très chatoyant. Dommage qu'il y ait eu un petit bug face à l'Espagne en demi-finale, sinon cette équipe avait le potentiel pour succéder au Nigeria en 96 et au Cameroun en 2000 en tant que troisième nation africaine à monter sur la plus haute marche du podium. Mais ces deux médailles remportées par le Maroc ne doivent pas cacher la forêt. Beaucoup de déceptions, beaucoup de déconvenues, et pourtant les budgets qui ont été validés pour les JO pour ces 4 années l'investissement sur les athlètes n'ont pas porté leurs fruits. Beaucoup de déceptions, beaucoup d'échecs et une réflexion qui doit s'imposer.